paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Sonia Nzian.
Merci de nous retrouver pour le premier journal de la matinée. Bienvenue. La mise à jour de la cartographie électorale du 1er au 30 avril prochain. Le FPI juge plus importante une réforme de la CEI. Le RHDP de son côté s'interroge sur cette position et estime au contraire que cette opération est une priorité. Sur cette divergence, vous aurez dans quelques instants Kwaku Kra, vice-président du parti à la Rose, chargé des élections et des questions électorales. Et pour le parti au pouvoir, Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé des élections. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, Judith Tuluka a été nommée lundi première ministre. Elle est la première femme à occuper ce poste. La revue des titres de la presse, ce sera avec Aoussi Potin. Et puis nous retrouverons en fin d'édition l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est Jean-Gervin Tcheidé, secrétaire général du PPACI. Il fera un tour de l'actualité en parlant notamment de la visite à Laurent Gbagbo de Kamaraté Souleymane, dit Soultoussoul, un proche de Soro Guillaume. Entre autres sujets abordés avec Francis Cassis en fin d'édition, l'élection présidentielle au Sénégal. Bonjour à toutes et à tous. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiémoko Meliékoné, conduira la délégation ivoirienne qui prendra part demain, mardi, à la cérémonie d'investiture du président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Selon la radiodiffusion télévision du Sénégal, il prêtera serment en tant que cinquième président du pays devant une quinzaine de présidents et de chefs de gouvernement, succédant à Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans, est le plus jeune président du Sénégal. La CEI procédera à la mise à jour de la cartographie électorale du 1er au 30 avril prochain sur l'ensemble du territoire national. Bien qu'étant d'accord avec cette opération, le Front populaire ivoirien FPI estime qu'elle n'est pas le sujet principal à traiter. Pour Kwaku Kra, le vice-président chargé des questions électorales de ce parti, la priorité devrait être une nouvelle commission électorale indépendante.
Je pense que ce qu'ils veulent faire là n'est pas l'essentiel de la crédibilité du scrutin de 2025. Ce qui est primordial, c'est d'instaurer un dialogue politique afin de discuter des questions pendantes. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de questions pendantes. Et je pense que au lieu de s'apesantir sur une cartographie électorale, il faut aller sur les questions réelles, la liste électorale par exemple, les questions de financement. Depuis 2001, nous avons installé une CEI politique avec plusieurs composantes. La société civile, les partis politiques, opposition au pouvoir, l'administration. Mais l'image de la CEI dans la société est écornée. Et en la matière, il faut donc retourner poser la question aux partis prenantes des élections pour voir quel type de CEI ils nous faut aujourd'hui. Sinon, si c'est avec la même CEI en 2025, il risque d'avoir des problèmes dans la mesure où à tout moment, la CEI est au banc des accusés.
Donc, pour vous, la priorité, c'est pas la mise à jour de la cartographie électorale?
Non. C'est un élément important, mais c'est vers la fin. Ce qui est primordial, c'est la commission électorale elle-même, c'est la liste électorale et puis la question du découpage électoral.
De son côté, le RHDP dit ne pas comprendre pourquoi certains partis jugent plus importante une réforme de la CEI que la mise à jour de la cartographie électorale. Là-dessus, retrouvons son secrétaire exécutif adjoint chargé des élections, Doumbia Brahima.
Nous sommes informés par rapport au communiqué publié par la Commission électorale indépendante. Nous avons pris connaissance donc de cette opération. Donc nous sommes informés.
Pour vous, qu'est-ce que cela signifie, mise à jour de la cartographie électorale?
Il s'agit de tenir compte des modifications qui interviennent au niveau de la population. La mise à jour de la cartographie consiste donc à regarder les sites qui sont habités, celles qui méritent donc d'être érigées en lieu de vote, les lieux de vote qui n'existent plus, comment les remplacer. Et puis bon, si vous avez de nouveaux villages, de gros campements, département où il y a un électorat potentiel qui mérite d'être érigé en lieu de vote. C'est tout ça qui constitue l'actualisation donc de la cartographie électorale.
Il y a des partis que nous avons déjà eus qui disent que oui, c'est bien de faire une mise à jour de la cartographie électorale, mais ce n'est pas la priorité et que la priorité et le plus important, c'est la refonte de la CEI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bon, pour moi, la refonte de la CEI, dans quel objectif? Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement à la CEI? En tout cas, nous, au RADP, la formule qui est là, nous pensons que certainement on peut l'améliorer, mais elle n'est pas mauvaise parce que les élections qui ont été organisées tout récemment par cette commission électorale, ces élections ont été bien organisées, tout le monde l'a reconnu. Les résultats qui sont sortis des unes ont été les bons résultats.
À l'instant, le secrétaire exécutif adjoint du RHDP chargé des élections, Doumbia Brahima, et juste avant lui, le vice-président du Front populaire ivoirien chargé des questions électorales, Kwaku Kra. Ils ont tous deux été joints par Francis Kassi. Le lancement de la première édition du Festival Agua a eu lieu le vendredi 28 mars à Brobo dans le Gbeke. Profitant de l'occasion, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, s'est exprimé sur la question de l'endettement de la Côte d'Ivoire, Kobenan Kwasi Adjoumani, ici dans des propos recueillis par Joseph Assali.
Quand vous arrivez à Kwake, on a l'impression d'être dans une ville d'Europe. Tellement les rues sont bien faites. Et lorsque vous quittez Msokro pour venir à Kwake, regardez cette belle autoroute, regardez cette université, regardez ce grand stade où nous avons eu à faire de belles victoires et où nous avons été qualifiés donc pour aller en demi-finale. Mais c'est vous dire que le président Alassane Ouattara, lorsqu'il fait du développement, il ne tient pas compte des couleurs politiques ni des couleurs religieuses. On a bâti des stades dans des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Au point où, quand les Blancs sont venus, ils se demandaient s'ils ne rêvaient pas. Est-ce qu'ils étaient dans un pays africain? Nos frères, les Africains même qui sont venus, il y en a d'autres qui voulaient s'établir ici parce qu'ils ont vu à la Côte d'Ivoire un pays qui prospère. Il faut être aveugle donc pour ne pas voir ce qui se passe. Si le FMI, si la Banque mondiale, qui sont les gendarmes de nos économies au niveau mondial, nous accordent des crédits, c'est que nous sommes crédible. Est-ce qu'on peut donner l'argent à quelqu'un qui n'est pas crédible? Est-ce qu'on peut donner l'argent à quelqu'un qui ne peut pas rembourser? Toi, tu dis que tu as eu 7 000 milliards. Mais 7 000 milliards, les gens ne t'en donnaient pas parce qu'ils ne te faisaient pas confiance. Or, Alassane Ouattara, le monde entier lui fait confiance. C'est pour cela qu'on lui donne l'argent. Donc, les gens n'ont qu'à savoir que l'argent qu'on a pris pour travailler là, c'est ça aussi qui crée la richesse.
Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières. Des organisations de la société civile réunies au sein de la plateforme Agir pour le Peuple a organisé le vendredi 29 mars un conclave. Objectif, réfléchir à des solutions face aux problèmes socio-économiques et sociopolitiques que vivent les populations ivoiriennes. Le point avec Linda Ballier.
L'union fait la force, une assertion que la plateforme AGIP veut mettre en exergue à travers ce conclave, dont le choix du thème « Union d'action, notre unique salut » est expliqué par son secrétaire général Armand Crippeux.
Notre cérémonie d'aujourd'hui est la suite du lancement de notre instrument de combat AGIP pour le peuple, tenu le samedi 9 mars 2024. Il était tout à fait normal qu'il y ait une suite pour dire où nous en sommes et comment nous comptons ensemble mener ce combat qui vise à améliorer notre quotidien. Face à ces cris, n'est-il pas opportun d'unir nos forces afin d'être enfin entendus? C'est cette problématique qui justifie notre thème « Union d'action, notre unique salut ».
Et pour le président de la FIDOP, si une société civile veut être forte, elle doit tenir ses positions. Bogasako Gervais.
La société civile, elle est puissante et forte lorsque ça s'assure en toute indépendance, en toute autonomie, en toute force. C'est en cela que sa parole reste crédible. La société civile peut bouleverser la société elle-même lorsque les politiques sont bloquées. Et la société civile se présente alors comme un contre-pouvoir capable d'atténuer la toute-puissance de celui qui est au pouvoir.
Dans la même veine, le PPACI qui participait à cette réunion a prodigué quelques conseils par la voix de son secrétaire général Jean-Gervais Tcheidé.
Les luttes de libération durent, elles sont ardues et elles sont lentes et longues. Il faut du courage, il faut de la résistance, je dirais même, il faut de la résilience pour pouvoir les embrasser et persévérer.
À noter que des recommandations fermes sont attendues au terme de ce conclave.
L'association des épouses et des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire a récemment organisé une opération de don de sang à l'état-major de la 2e Légion de gendarmerie de Daloa. L'association veut aussi renforcer la cohésion et la paix au sein des forces de sécurité et de défense en Côte d'Ivoire. Là-dessus, un compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Le commandant de la 2e région de gendarmerie de Daloa, le colonel-major Dosso Ibrahima, a salué cette opération de don de sang de l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire.
Donner de son sang est un don de soi. C'est un acte de générosité, un acte divin, patriotique. La Côte d'Ivoire, pour son autosuffisance annuelle en produits sanguins, a besoin de 300 000 poches de sang. Et le slogan « Je donne mon sang, je sauve des vies ». Vous n'avez pas dérobé à ce slogan. Au vu des besoins croissants dans nos différents hôpitaux, je tiens à inviter plus de volontaires à participer à ce genre d'événements.
Pour la présidente d'honneur de l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, Kone Kpaona Touré, il s'agit de renforcer la cohésion au sein des familles, des forces de défense et de sécurité en Côte d'Ivoire.
Nous, épouses des gendarmes, avons choisi de donner notre sang pour sauver les vies humaines. Je salue la présence de nos sœurs, de la police et des militaires. C'est notre manière de démontrer que nous sommes aux côtés de nos maris. Qu'il y ait l'unité au sein de notre armée, que la paix règne au sein de ce pays.
La présidente nationale de l'association, Abbé Chantal, et le secrétaire général de préfecture de Daloa, Yaya Bamba, ont félicité et encouragé les épouses de gendarmes et toutes les bonnes volontés à donner leur sang pour aider et sauver des vies dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Sur le continent, pour la première fois, une femme va diriger le gouvernement en République démocratique du Congo. Il s'agit de Judith Tuluka, ministre du Plan. Elle a été nommée lundi première ministre. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle figurait parmi les 3 candidates finalistes pour le poste. Diplômée en économie à Bruxelles, Judith Tuluka a forgé son expérience professionnelle dans le secteur bancaire et au PNUD avant d'embrasser une carrière au sein de l'exécutif national. Dans ses premiers mots en tant que chef de gouvernement, Judith Tuluka a clairement donné le ton, à savoir la lutte contre les menaces externes et les infiltrations internes, apprend l'AFP. Nous en arrivons à la revue des titres de la presse et c'est avec vous, Aoussi Potin. Bonjour.
Bonjour à vous Sonia, bonjour à toutes et à tous. Le dimanche 31 mars 2024 a été une journée spéciale pour une frange importante des chrétiens du monde entier, à l'image de ceux de la Côte d'Ivoire, car ayant marqué la célébration de la fête de la Pâque, une célébration dont les échos nous sont proposés dans leur titre de une par plusieurs tabloïds parus ce jour. Fraternité Matin titre, s'appuyant sur son homélie Pâque 2024, Monseigneur Coutoua invite les Ivoiriens sur le chemin de la confiance. Et le quotidien gouvernemental de proposer l'ambiance de Pakinou à Abidjan et dans d'autres villes. Choisissant le même angle de traitement, l'Inter affiche à sa une un extrait de l'homélie de l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Et nous le citons, réconciliation et paix durable, le cardinal Coutoua prévient. La vengeance entraîne toujours la vengeance. Pakinou 2024, Sonia, ça a été aussi des festivités populaires marquées par des déplacements et dons d'hommes et de femmes politiques. Ainsi, le quotidien L'Intelligent d'Abidjan et Le Matin mettent en avant, respectivement à leur une, la ministre de la fonction publique avec les titres respectifs suivants. La reine du Bomi, Anne-Désirée Ouloto, prône la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes. Et Anne Ouloto crée un fonds pour l'autonomisation des femmes. Alors Sonia, si ça vous intéresse de revivre Pakinou 2024 du côté de Yopougon, ça vous dit Yopougon?
Absolument, ça me dit.
Que vous connaissez bien aussi comme commune, n'est-ce pas?
Exactement.
Alors je vous encourage à vous intéresser à la une du quotidien L'Avenir qui titre « Reportage, c'est un reportage, Pakinou 2024 ». au cœur de l'effervescence de la fête dans les maquis Baoulé de Yopougon. Bon, comme quoi c'est le marque déposée Baoulé, mais ça c'est le quotidien qui le dit. Alors, terminons Sonia avec, en revenant bien sûr sur nos réalités politiques, hein, certains quotidiens donc ont décidé de titrer sur des sujets politiques ce matin. C'est le cas de L'Expression qui titre, s'intéressant au président du PPACI, l'ex-chef d'État ivoirien, demande de libération des prisonniers, le seul programme de gouvernement de Gbagbo. Et puis le quotidien Le Nouveau Réveil qui titre présidentiel 2025, pourquoi Thiam devrait diriger la Côte d'Ivoire. Terminons par Le Patriote qui s'intéresse au monde paysan en mettant en avant les actions du président Ouattara à l'endroit de ce monde, donc des paysans, avec son titre « Augmentation du prix du kilo de cacao, Ouattara gâte les paysans ».
Merci à vous Potin, on vous retrouvera dans l'édition de 8h et ce sera toujours pour la revue des titres de la presse. Jean-Gervin Tchéidé est aujourd'hui l'invité de la rédaction pour refermer ce journal. Secrétaire général du PPACI, il se prononce sur quelques faits de l'actualité, notamment la récente visite à Laurent Gbagbo de Camarate Souleyman, dit Soul to Soul, proche de Soro Guillaume. Par ailleurs, Jean-Gervin Tchéidé salue la résilience du PASTEF, parti d'opposition, qui vient de remporter l'élection présidentielle au Sénégal. Sans plus tarder, retrouvons Jean-Gervin Tchéidé dans un entretien mené par Francis Cassis.
Jean-Gervais Tchéidé, bonjour.
Bonjour.
Alors, récemment, Soul to Soul, à l'état civil, Camarate Souleyman, proche de Soro Guillaume, est allé rencontrer le président Laurent Gbagbo. Alors, officiellement, on nous a dit que c'est pour aller lui dire merci.
Oui, il s'agit effectivement d'une visite de reconnaissance pour exprimer sa gratitude au président Laurent Gbagbo pour l'aide qu'il lui a apportée, le soutien moral et le combat qu'il a mené aussi pour que les prisonniers politiques, notamment militaires et civils aussi, soient libérés. Donc, c'est en reconnaissance de tous ces efforts déployés par le président Laurent Gbagbo que M. Souleyman a dit Soul to Soul est venu saluer le président Gbagbo avec sa mère et les membres de son équipe politique.
Mais cela a donné lieu à des spéculations médiatiques. Dans les médias, on a lu, c'est vrai, c'est pour témoigner sa reconnaissance au président Laurent Gbagbo, mais est-ce que cela n'annonce pas un rapprochement, selon ce que nous avons lu dans les médias, entre GPS et PPACI?
Alors, écoutez, les médias ont le droit de faire les commentaires. Vous le dites vous-même dans votre jargon professionnel. C'est les faits qui sont sacrés, les commentaires sont libres. Et donc, ils ont le droit de commenter comme ils le souhaitent. Mais en tout cas, ce n'est pas ça la question. La question, c'est juste une visite de reconnaissance, de gratitude.
Mais est-ce que le PPACI n'a jamais pensé à cela, puisque vous êtes tous deux dans l'opposition?
Bien, nous sommes dans l'opposition et nous ambitionnons de reconquérir le pouvoir d'État. Nous l'avons d'ailleurs dit clairement en désignant le président Laurent Gbagbo comme notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Sur le chemin entre maintenant et l'élection présidentielle de 2025, toutes les possibilités sont ouvertes.
Mais il y a un média qui s'est interrogé pourquoi Laurent Gbagbo, jusque-là, n'a pas encore reçu Charles Blé Goudé, mais reçoit un membre du GPS. Que lui ne comprend pas cela très bien, ce journal-là.
Eh bien, et comme je le dis, il a le droit de s'interroger. Je rappelle que c'est à la demande de M. Soul to Soul que le président Laurent Gbagbo l'a reçu. Pour ce qui concerne M. Charles Blé Goudé, je n'ai pas encore connaissance qu'il ait souhaité rencontrer le président Laurent Gbagbo.
Alors, les élections, c'est pour 2025 et Laurent Gbagbo est handicapé. Vous êtes vraiment conscient, n'est-ce pas?
Handicapé par quoi?
Par la condamnation judiciaire qui le rend forclos par rapport à la compétition à être candidat.
Non, pour nous, ce n'est pas du tout un handicap, dans la mesure où il s'agit d'une manœuvre purement politicienne pour l'écarter. Et donc, c'est par des voies politiques qu'on va lever ce petit verrou. Et donc, pour nous, il est nullement handicapé et il est notre champion que nous allons présenter en 2025 et gagner. Chemin faisant, les questions administratives de sa réinscription sur la liste électorale, on les réglera.
Alors, après la libération de certains prisonniers récemment par grâce présidentielle, le PPACI a dit qu'il y a encore des prisonniers selon ses propres thèmes politiques en prison. Pourquoi?
Nous ne savons pas, mais on note qu'il y a 11 pour être précis, prisonniers politiques civils et militaires qui restent encore dans les geôles. Et donc, tout en remerciant le pouvoir pour les pas accomplis dans le sens de la décrispation et de la réconciliation. Le président Laurent Gbagbo a fait remarquer que pour qu'on solde définitivement ce volet des prisonniers politiques, il faudrait que le président de la République continue jusqu'au bout de cette logique.
Une élection présidentielle vient de se dérouler au Sénégal et tout le monde acclame ça, tout le monde la qualifie vraiment de démocratique. Alors, quel enseignement tirez-vous, vous, en tant que PPAC?
Bien, en regardant les efforts fournis par le PASTEF, le parti de M. Ousmane Sonko, qui a été dissous, en observant donc l'abnégation, la détermination des militants de ce parti et du peuple sénégalais en général, on ne peut que saluer cela et féliciter les militants de ce parti. Parce que lorsque vous êtes convaincu de défendre une cause juste, aucun obstacle, même l'emprisonnement ou les tentatives d'assassinat, aucun obstacle ne devrait vous détourner de votre chemin. Nous saluons aussi le fait que les structures chargées du processus électoral aient joué à fond la carte de la transparence et donc ont rendu ainsi les élections crédibles.
Est-ce que vous êtes aussi au courant que la CEI annonce procéder à la mise à jour de la cartographie électorale du 1er au 30 avril?
Nous avons eu le communiqué. Nous attendons de nous concerter là-dessus et de voir avec les services techniques de la CEI en quoi cela consiste réellement. Et puis bon, ben, politiquement, comme je l'ai dit, pour nous, la question ce n'est pas de faire une révision saupoudrage de la liste électorale. Il s'agit de faire table rase de ce qui existe actuellement pour qu'on partage de nouveaux fonds bâtissants. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est la commission électorale qui organise les élections, qui se termine par des crises post-électorales. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on règle ça définitivement.
Mais la CEI n'annonce que la mise à jour de la cartographie électorale. Est-ce que vous êtes contre cela?
Non, je ne dis pas que je suis contre cela. Je dis qu'on doit avoir un débat global sur les conditions générales d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la cartographie, c'est pour savoir si dans telle région, bien dans tel département, bien dans telle ville, on maintient le nombre de bureaux de vote qu'il y avait aux dernières élections. Est-ce que les populations vont augmenter dans tel secteur? Ça, c'est des questions techniques. La question politique qui est de fond, c'est que l'organe qui gère les élections-là, on doit le revoir de fond en comble. C'est ça qui est la position du PPAC.
Jean-Gervais Kéidé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Jean-Gervais Tcheidé, secrétaire général du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, était avec Francis Cassi. C'est d'ailleurs ce qui marque la fin de ce journal, dont voici le rappel des titres. Mise à jour de la cartographie électorale du 1er au 30 avril prochain. Le FPI juge plus importante une réforme de la CEI. Le RHDP, de son côté, s'interroge sur cette position et estime au contraire que cette opération est une priorité. Sur ces divergences, vous avez eu en début de journal Kwaku Kra, vice-président du parti à la Rose, chargé des questions électorales. Et pour le parti au pouvoir, Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé des élections. Et puis hors de nos frontières en République démocratique du Congo, Judith Tuluka a été nommée lundi première ministre. Elle est la première femme à occuper ce poste. Merci de nous retrouver à 8h pour un autre point de l'actualité.